Et si aujourd'hui nous parlions du surentraînement et de ses conséquences avec un homme qui l'a vécu? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement, d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez le podcast, aujourd'hui, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial qui me tient à cœur, vraiment qui me tient à cœur. Je vais faire peut-être une intro qui sera peut-être un petit peu plus longue, je l'ai un petit peu écrite. Je suis un peu ému de vous parler de ce sujet-là parce que, en fait, c'est vraiment un sujet... ça me remue un petit peu, voilà, je dois vous le dire, j'ai déjà fait des épisodes sur le sujet, que ce soit sur Kilomètre 42, sur sport et nutrition, sur le surentraînement, sur l'épuisement, sur le RDS, c'était avec des femmes et c'était notamment par le prisme de l'aménorrhée, la perte des règles, de ses conséquences, conséquences sur le corps, sur le moral, sur le poids, et vraiment c'est un sujet parce que je l'ai observé chez des jeunes filles, notamment quand j'étais en club. Et il y a quelques mois, Alexandre Béraud m'a envoyé un message pour me remercier d'en parler et me dire merci. Alors, je me permets de le citer, son message, parce qu'il m'a dit « Bravo pour ton dernier podcast sur le RDS. Pour avoir connu et avoir toujours des séquelles du penchant masculin du problème, c'est une très bonne chose de parler de cela. Il y a l'ignorance et les tabous, très difficilement identifiables pour les hommes, un vrai chemin de croix pour en sortir. » Et franchement, pour avoir suivi ses résultats à Alexandre sur Instagram, je ne pensais pas qu'il avait pu avoir souffert de ce surentraînement. Et alors peut-être parce que en fait, dans ma tête, son physique musculeux me semblait à l'opposé des physiques filiformes des femmes que je connais qui en souffrent, ou même des hommes, hein, d'ailleurs on en parle, il est beaucoup plus musculé que les autres, il est plus carré, il a plus l'image d'ailleurs que moi je me fais, que j'aimerais bien avoir physiquement, et comme quoi les apparences peuvent être vraiment trompeuses. Et puis il y a quelques jours, Alexandre m'a recontacté pour me dire qu'il pouvait témoigner, et je le remercie car oui, c'est un sujet tabou, notamment parce que certains signes qu'il a constatés touchent directement à la virilité. Alexandre est un papa, gendarme de métier, pas un coureur professionnel, mais un coureur d'un excellent niveau. Vainqueur du 224 km du VVX à Volvic cette année, 21e de l'UTMB ou encore 10e de la Diagonale des Fous. Il a fait plusieurs podiums encore cette saison. Il est en équipe, il a des partenaires. On peut donc le dire, c'est un excellent coureur. Et pour quelqu'un qui n'aimait pas courir, encore plus. Mais il s'est pris au jeu de la compétition et ensemble nous avons parlé justement de son parcours, de son entraînement, de ce qui l'a conduit au surentraînement petit à petit, du fait qu'en fait il s'en soit même pas rendu compte, et puis des conséquences sur son corps, vous allez voir notamment, sur, on va parler de son squelette, vous allez voir quel âge ont ses os, hein, tout simplement, son moral, ses relations avec son entourage, les repas de famille, un petit peu tout l'ensemble, hein, et comment ça a joué sur toute sa vie. Et puis, bien sûr, on a parlé de comment il s'en est sorti, alors des difficultés de trouver des personnes qui pouvaient comprendre de quoi il souffrait, et aussi de l'entraînement, de ce qu'il adaptait, des changements, et du fait qu'en fait, bah, maintenant, il a modifié une partie de son approche, et qu'il continue, hein, parce que les résultats que je vous ai donnés en début de présentation, et ben en fait, c'est les résultats des derniers mois. Voilà, des derniers mois, hein, sa place à l'UTMB, c'était cette année. Malgré, vous allez le découvrir aussi, un souci lié à l'altitude qu'il a découvert encore récemment. C'est un témoignage fort que je suis fier de vous partager dans cet épisode, car je pense que malheureusement, c'est un fléau qui est très répandu, qui est tabou, et qui va à l'opposé de ce que nous recherchons dans le sport. On en parle un petit peu à la fin, dans l'esprit du vieillard galopant, de l'esprit d'être en bonne santé, de vivre plus vieux. Ben Alexandre, en fait, il le confirme un petit peu, ben il a peut-être entamé un petit peu son capital d'année de vie. Peut-être, hein, on ne le sait pas, on ne le saura que bien plus tard, et je lui souhaite que ce ne soit pas le cas. Mais en fait, ça lui a amené une réflexion, notamment hein, sur la vie, sur les relations avec son entourage, sur l'entraînement, sur les médailles, sur beaucoup de choses. Et vous allez voir, c'est un épisode que je trouve extrêmement fort. Et je remercie donc particulièrement Alexandre de partager avec nous ce message. Bon, avant de partager cette discussion passionnante, je dois quand même faire une petite pause publicitaire. Car oui, je vous rappelle que c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Je passe la pub et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour Alex.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va, comme je te le disais juste avant qu'on débute l'enregistrement, c'est la coupure, donc c'est du repos, on est à la maison, il fait moche dehors, tous les éléments sont présents pour cette coupure, ça se passe bien.
Il fait moche dehors, c'est bizarre, moi j'ai du beau temps chez moi aujourd'hui, j'en ai profité avec un beau soleil, c'est la chance hein, après d'avoir ça, et il fait moche, mais ce week-end il faisait moche aussi.
Ouais, comme je te disais aussi, j'étais sur la Sainte-Express pour accompagner ma sœur, passer un bon moment de partage, mais ouais, bah écoute, Saint-Élion, comme d'habitude, temps pourri, paysage absolument abominable, voilà, tout ce qu'il faut pour se régaler, quoi.
Ouais, moi j'ai fait la blague en disant que les organisateurs, de toute façon, chaque année, ils règlent le mauvais temps sur pile ce week-end de la Saint-Élion pour mettre du mauvais temps. Mais en plus, c'est vrai que c'est pile les moments où il s'est mis à faire plus froid, de la neige, etc. Ça s'est bien passé avec ta sœur?
Ouais, bah comme tu dis, ouais, pour la météo, ouais, c'est dingue. Hein. On a eu un mois de novembre extraordinaire. Il faisait beau, à plus savoir quoi en faire pour être dehors. Et puis là, bah ouais, week-end de Saint-Élion, on prend du négatif, de la pluie. Bah écoute, ouais, ça s'est super bien passé. Elle a fait une course vraiment pleine. Donc voilà, elle a joué dans le haut du classement féminin. Donc ouais, ça faisait plaisir de l'accompagner. Et puis ouais, partager ça de l'intérieur, quoi. C'est toujours assez spécial quand t'es à côté, toi, on va dire, bah, quand même, en relative aisance, et de voir, d'être à 100% avec quelqu'un qui se dépasse, ne pas voir que sur les ravitaillements, être vraiment, voilà, au plus près, quand il y a les hauts, quand il y a les bas, quand il faut se mettre dedans, c'est super intéressant, hein, on va dire, au niveau humain, de voir ça, et puis d'autant plus, ouais, quand tu partages avec un membre de ta famille, ouais, c'est prenant et c'est un bel aboutissement.
C'est souvent que tu arrives à partager des courses comme ça avec des membres de ta famille, parce que on va le dire, hein, t'as des belles courses, un beau palmarès. Mais c'est souvent que tu arrives à avoir ces partages avec ta famille ou pas?
Dans la saison, il y a toujours, je dirais qu'il y a toujours une, deux, voire trois courses où je fais ça. Je pense que c'est quelque chose qui, entre guillemets, me reste de avant d'être assez compétiteur, on va dire. Moi, voilà, je suis venu dans le trail pour ça. On pourrait débattre un petit peu de l'esprit trail, mais ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager. Et ben voilà, que ce soit sur la fin de saison ou sur, on va dire, un entre-deux courses où je vais devoir faire un bloc avec du volume sans forcément de temps de passage à prévoir ou en début de saison. Ouais, c'est quelque chose que j'aime vraiment, quoi. Que ce soit du pur partage où on est vraiment tranquille ensemble, ou alors, ouais, d'accompagner dans l'effort pour aller chercher une bonne performance, que ce soit bah, du coup avec ma sœur ou avec ma femme ou même avec des amis. C'est ouais, quelque chose qui me fait vraiment plaisir, et je prends autant de plaisir dans ces courses-là que dans les courses compétitives, de par le partage, et puis surtout, faut pas se mentir, aussi de s'enlever une certaine pression, quoi, d'être juste dans le moment présent. C'est super important, quoi.
Ouais. Alors bon, on n'a pas fait les présentations. Moi, je vais te dire un truc, c'est que l'an dernier, je t'ai vu, j'ai suivi ça. Alors, c'est ta femme qui nous faisait les lives, je crois, hein, ce jour-là, sur la VV. C'était quoi, la VVX?
Ouais,
que t'as gagné?
C'était l'XGTV. Ouais, j'avais sur le grand parcours, du coup, sur le 225 km.
Ouais. Et en fait, alors le partage qui était, en fait, c'était sur jeudi, parce que c'était dans le groupe Gorilla WhatsApp, sur le groupe des ambassadeurs Gorilla, et qui disait mais il est en avance. On a l'impression que t'étais en avance sur tes temps, enfin que tout se passait mais merveilleusement, non?
Ouais, oui et non. J'avais pas, pour être tout à fait honnête, c'était une distance que j'ai totalement découvert, hein, passer le cap des 200 bornes, c'est encore un autre monde, hein, ce que j'ai pu découvrir. Et voilà, il y avait pas vraiment de temps de passage, mais c'est vrai que rapidement, les choses se sont faites naturellement. Je me suis retrouvé devant, et c'est vrai que au fur et à mesure, l'écart se creusait. Et ouais, tout s'est plutôt bien passé, on va dire, hormis les 50 derniers kilomètres, mais qui se sont mal passés, parce que là, j'étais vraiment vraiment au bout. Mais c'est aussi là-dedans, ben, que les meilleurs souvenirs se créent, quoi. C'est dans la difficulté que tu gardes les meilleurs souvenirs. Et ben voilà, comme tu l'as dit aussi, le partage, voilà, Charline, c'est quelque chose qui lui tient à cœur quand elle fait le suivi, l'assistance, de pouvoir partager avec les gens autour, et c'est ce qui crée des beaux moments. Voilà, étant Auvergnat comme toi, ouais, c'est une trace qui me tenait vraiment à cœur. Quand tu fais tous les plus beaux sommets, les plus beaux massifs de l'Auvergne en une seule traversée, c'est un chouette accomplissement.
Qu'est-ce que tu te dis quand même au moment où tu t'inscris sur une distance comme ça? Parce que, enfin, on le rappelle, hein, 224 km, je sais pas combien il y avait de dénivelé, mais c'est un truc de dingue en fait quand même. Hein.
Ouais, parce que ce que tu dis, je pense, c'est, tu sais, c'est comme toutes les personnes qui s'inscrivent et qui passent un cap en distance. Ben voilà, c'est au moment où tu cliques, quoi. Tu réfléchis, tu dis je vais jamais y arriver. Et puis quand t'as cliqué, bah, tu as mis la première phalange. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à y enfoncer le bras, quoi. Faut mettre les choses en place pour espérer y arriver. Gérer au mieux la course, hein. C'est surtout le début de course, la première moitié qu'il faut savoir gérer, rester frais. Et puis après, ben, comme à chaque épreuve, tu sais pas comment tu as fait, comment tu referas, mais tu mets des choses en place. Le temps défile forcément et les kilomètres plus vite qu'à l'entraînement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut passer sur des grandes distances. Et puis, ma foi, les choses se passent comme elles doivent se passer, parfois bien, parfois mal, mais il y a toujours moyen, tant qu'on n'est pas dans le fossé, de pouvoir finir.
T'as fait une année quand même, on va le dire, c'est remarquable. Enfin, t'as fait toutes les courses sur lesquelles t'as fait des, où t'es placé. T'as fait quoi avant? T'avais fait l'UTMB?
Alors cette année, j'ai commencé par est-ce que c'était directement la VVX?
Oui,
Non,
parce
j'ai
que la
fait
VVX,
le
c'était
semi.
VVX, c'était au quoi? C'était au printemps, hein? C'est au mois de
Ouais,
avril-mai.
c'était au mois de mai.
Ouais.
C'était au mois de mai. Alors c'était une course qui, comme je l'ai déjà dit, en fait, c'était des reports Covid,
Ouais.
donc d'inscription. Donc qui se plaçait pour moi très mal dans le planning. Parce que quand tu commences entre guillemets la saison, donc j'avais fait un semi avance et tout, mais quand tu commences la saison par un 225 bornes, tu te dis que s'il faut 4-5 mois pour récupérer après, et ben la saison est déjà pliée. Et sachant que bah du coup derrière j'avais un autre objectif, l'UTMB, ça reste toujours voilà très compliqué de se dire est-ce qu'on va pouvoir regagner la fraîcheur nécessaire pour aller sur l'UTMB. Et entre ces deux courses j'avais fait un 50 km sur l'UTPMA, Aurillac, j'avais refait une petite course locale, j'avais été au Resto Inca en Corse,
Ouais.
où j'ai eu un arrêt médical. On pourra revenir là-dessus, du coup, sur des symptômes qui m'étaient déjà arrivés à l'UTMB 2021. Et puis ensuite, j'ai fini la saison avec le Grand Trail d'Auvergne, 80 km, pour aller chercher une course, on va dire, en fin de saison, à l'automne, pour pas non plus couper trop tôt et garder ouais, cette appétence pour la compétition et se projeter sur 2023.
Ouais. Alors, ceux qui se posent la question, je mettrai bien sûr le lien vers ton compte Instagram pour où t'as ton compte Strava aussi dessus. Ça fait quoi? Deux victoires, une deuxième place sur l'année?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai pas fait d'autres courses, hein. Je réfléchis en compétition. Non, non.
Et ceux qui
Non,
se posent la
une course.
question, ouais. Et
Oui, vas-y.
sur l'UTMB, 21e, c'est ça?
Ouais, 21e, 23h11. Donc ouais, ça s'est plutôt bien passé aussi, on va pas se mentir.
Ouais, je vais te dire, ça claque hein, quand même. Quand tu dis que t'arrives dans les, puis en plus, alors devant la légende Kylian Jornet qui l'emporte avec un mano à mano. Alors toi, d'où t'es? Parce que t'arrives finalement loin et sans être si loin que ça finalement. T'en as vu quoi toi de la course de cette course? T'en gardes quoi comme souvenir de cette UTMB?
C'est vraiment un gros condensé pour moi. Car ouais, l'année dernière, j'ai eu, bah, comme je t'ai dit, un arrêt médical. En fait, j'ai fait un œdème pulmonaire. Donc, j'ai vraiment abordé l'UTMB comme une grosse bête noire au milieu du calendrier. Avec, je vais pas mentir, avec comme seul objectif de finir et de tourner la page, en fait, de cette UTMB 2021 qui s'était mal passée. Donc, j'ai abordé la course très sereinement, en termes de temps de passage. J'étais moins serein, évidemment, psychologiquement. Voilà, je sais pas à quelle sauce la montagne allait vouloir me manger. Mais voilà, sans pression, Charline, sur les ravitaillements, il n'y avait pas de gros plans de ravitaillement. J'ai même un moment dit, ne remplis plus les flasques, on verra à chaque ravitaillement ce que j'ai envie. C'est pas grave, on sort du côté performance. Et puis bah de fil en aiguille, comme sur toutes ces courses très relevées, hein, c'est un écrémage, on va dire par l'avant. Hein, c'est tu doubles peu de coureurs, c'est plutôt devant que ça saute. Et voilà, je finis avec un temps, bah ouais, avec un temps qui est relativement honorable. Où les années précédentes, ça joue dans le top 10 avec un temps comme ça. Après moi, ce qui s'est passé devant, j'en ai pas vu grand-chose. C'est vrai que on a été très très rapidement surpris de voir que devant il y avait des écarts pas possibles. Si j'ai à peu près les mêmes temps de passage qu'en 2021 sur la première moitié de course où j'étais dans un petit peloton, dans des groupes de tête, là tout était déjà complètement éclaté par là. Devant, ça avait vraiment mis un tempo très fort. Et moi j'ai rattrapé du coup Cathy Scheid dans la dernière descente. Donc c'est vrai que je garde une saveur toute particulière de l'arrivée. Voilà, la première féminine qui arrive, t'as des milliers de gens dans Chamonix, une ferveur qui est vraiment incroyable. Et j'ai eu la chance de pouvoir connaître une arrivée comme ça. Donc ouais, ça restera un grand souvenir.
Et pourtant, et on peut en parler. Hein, cette course de l'UTMB, donc celui-ci, il se passe bien, mais pourtant tu vas découvrir. C'est après que tu le découvres que finalement c'est quoi? C'est l'altitude qui te pose problème?
Ouais, en fait, je l'ai découvert ensuite en septembre, après plus d'un an d'examens médicaux divers et variés. Voilà, pour revenir rapidement dessus, à l'UTMB 2021, lors des ascensions, je me retrouve à avoir une toux persistante, avoir être nauséeux. Voilà, je sais pas sur quel compte mettre ça. Ça ressemble à de l'asthme d'effort. Le médecin m'arrête à Trian. J'avais une saturation d'oxygène qui était tombée très basse. Donc là, il y avait pas de doute qu'il fallait pas continuer. Voilà, j'avais fait des examens, on avait trouvé des traces dans les poumons, donc tout de suite on pensait peut-être Covid, les poumons qui grosso modo se rongeaient, c'était pas ça. Donc peut-être de l'asthme à l'effort, j'ai fait les examens nécessaires, tout ce qui était cardiaque, tout ça, on n'a rien trouvé. J'avais un petit peu laissé ça de côté en me disant voilà, c'est peut-être un épisode juste sur cette course. Et au Restonica, cette année, même symptôme. Donc là, je coupe beaucoup plus vite, hein, sachant que sur le TMB, j'avais fait quasiment 9 heures de course avec les symptômes, parce que je voulais vraiment juste finir même en marchant, mais une chose qui était impossible. Ouais. Et de là, de nouveau des examens, et grosso modo, le dernier examen qui restait, c'était un test hypoxie, en fait, une simulation à l'altitude, pour voir ce qu'il en était. Et de là, on m'a trouvé que voilà, j'étais quelqu'un de très sensible à l'altitude, et au-dessus de 2000 mètres, voilà, j'avais une saturation en oxygène qui diminuait fortement. Des maux de tête, la tête qui tourne, tu vois, un petit peu, nauséeux, et à la limite, tu sens que le malaise n'est pas loin. Donc voilà, c'est quelque chose maintenant que je dois prendre en compte. Donc, tu vois, sur l'UTMB, j'ai fait des ascensions très, très, comment dire, contenues, en termes de plage cardiaque, voilà, ne pas me mettre dans le rouge, pouvoir garder une respiration suffisamment conséquente pour pouvoir bien m'oxygéner. Et ma foi, c'est passé là, donc j'ai bon espoir que ça passe pour les prochaines courses. Mais il est vrai que voilà, tout ce qui va être des courses, on va passer les 3000 mètres d'altitude. Je vais pas aller jouer là-dessus et éventuellement hypothéquer une partie de ma santé pour une course. Quoi.
Ça te frustre ?
Pas spécialement, parce que j'avais pas d'objectif dans ces courses-là. Non, frustré, non, c'est quelque chose que je prends en compte, en fait. Voilà, je relativise. Si je voulais aujourd'hui, tu vois, faire des ascensions, on va dire, en alpinisme, je n'ai pas de contre-indication à les faire.
Ouais.
Il faudrait évidemment faire une acclimatation, mais tu as aussi le côté médicamenteux qui peut rentrer en compte. Donc là, pour en avoir parlé avec les médecins, c'est la prise de diurétique pour éviter les œdèmes pulmonaires, mais c'est interdit en course. Voilà, ça fait partie des substances qui sont interdites par les agences antidopage, parce que les diurétiques, faut savoir, sont utilisés par les athlètes qui se dopent pour diluer les urines et masquer les produits dopants dans le sang. Donc c'est pas un dopant par lui-même forcément, mais voilà, ça peut être utilisé. Donc voilà, c'est quelque chose que je me servirai pas que je peux pas me servir en compétition. Et après, ma foi, non, les sommets, je peux aller les faire. Mais voilà, comme je t'ai dit, moi, c'est toujours aussi important de partager en famille ou d'aller le faire avec des amis. Donc, si ma foi, un sommet, je vais pas aller le faire avec un dossard, ça m'empêchera pas d'aller y prendre grand plaisir, d'y aller quand même.
Bon, après, il te reste quand même pas mal de courses à faire ou qui montent pas aussi haut, quoi.
Oui, bien sûr. Voilà, 3000 mètres, ça reste quand même un cercle de course relativement restreint. Donc, il y a de quoi faire encore.
Ouais, on l'a pas dit aussi. Depuis combien de temps tu cours, en fait?
Moi, je cours, ça va faire, je dirais, une dizaine d'années, sachant qu'avant, avant, je détestais absolument ça. Je m'y suis mis, pour revenir rapidement dessus, moi, je suis gendarme. Et en école gendarmerie, voilà, les sports militaires, et ben c'est la course à pied, les agrès surtout. Et si tu veux, nous on a un classement en fin de stage qui est au méritariat, donc faut avoir les meilleures notes possibles.
Ouais.
Et pour avoir les meilleures notes possibles, ben il faut être bon en sport, bon en course à pied, faut s'entraîner. Et voilà, comme j'aime à le répéter, ben ce qui était une contrainte d'aller courir est devenu une habitude, et l'habitude devient rapidement un besoin. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Première affectation dans mon travail à Chambéry, j'ai découvert ce qu'était le trail, je connaissais même pas le mot. Et puis un jour, j'ai découvert qu'on pouvait mettre des dossards. Je me suis dit, bah tiens, c'est cool, on peut faire des circuits qui sont balisés, on découvre des choses, il y a à manger sur la course, on a une douche à la fin, tout ça, impeccable. Et puis 2-3 ans plus tard, je franchis une ligne d'arrivée, on me dit, ouais, pars pas tout de suite, tu dois monter, il y a le podium, machin, bon. Et puis de fil en aiguille, et voilà, tu te prends au jeu, et puis tu joues un peu plus sur le haut du peloton, et c'est comme ça qu'en fait, et ben ouais, tu bascules petit à petit. Et puis moi, j'ai trouvé plus d'appétence, de plaisir dans les longues distances. Voilà comment je suis venu aujourd'hui à faire de l'ultra.
Ouais, c'est drôle quand même. Enfin, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Moi, ce parcours de dire finalement, ton premier podium, c'est vraiment inattendu, quoi. C'est tu partais, puis on dit ah non, mais tu dois monter dessus là.
Tu cours pour prendre du plaisir, pour aussi donner un petit peu du meilleur de toi-même, mais sans vouloir jouer les classements, quoi que ce soit. Et puis quand les distances s'allongent, ce que je te disais, souvent, tu fais une course, moi j'ai toujours fait une course, on va dire, en diesel, une course par l'arrière où ça saute devant. Et puis quand un jour, à un moment de la course, on t'annonce sur ravitaillement, t'es dixième. Et puis finalement, au ravitaillement d'après, on dit, t'es cinquième. Et puis finalement, tu te trouves franchir les mondiales, t'es sur le podium. Donc, c'était assez atypique. Bon, après, maintenant, c'est clair que j'ai mis en place des cadres. On y reviendra après au niveau de l'entraînement où, je me suis beaucoup plus structuré, où j'ai un entraîneur, où maintenant je fais partie d'un team. Donc, c'est toujours une plus-value. Et maintenant, je prends aussi plaisir à jouer la compétition.
Ouais, et on n'a pas dit ton classement à la Diagonale des Fous de l'an dernier, mais là aussi, ça avait mon classement. Hein.
Ouais, ça avait bien marché. Ben, en fait, comme exactement le même profil que l'UTMB cette année, j'y vais justement en ayant eu 6 soucis de santé à l'UTMB 2021. Moi, je prends le départ de la course. Tu vois, je dis à ma femme, franchement, ça sert à rien que j'y aille, on y va parce qu'il y a le voyage, parce qu'on a le dossard. Je prends le départ, mais voilà, on verra bien. Hein, j'y vais tranquille. Et puis pareil, grosse condition météo, évidemment un gros parcours, et puis petit à petit tu te retrouves à passer la ligne d'arrivée dans le top 10. C'était vraiment fou, quoi.
Tout ça, on a dit, hein, t'es gendarme, hein, donc t'as un métier, oui. t'es pas athlète professionnel. Alors je sais pas, est-ce que la gendarmerie, il t'aménage du temps quand même, ou t'as pas d'aménagement,
non.
Rien du tout.
Non, alors je n'ai aucun aménagement de complaisance, on va dire, mais j'ai la chance, moi, dans mon unité, si tu veux, le sport fait partie de notre travail.
Ouais.
Donc j'ai quand même des créneaux sport dans la semaine, et où j'ai la chance de pouvoir 90% du temps faire mes entraînements personnels pendant mon temps de travail. Donc ça, c'est quand même une grosse plus-value, comme étant donné que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les sports militaires sont souvent la course à pied, le renforcement musculaire. Moi, ma dominante, évidemment, va être la course à pied. Et ben donc du coup, ça ne pose aucun problème que je fasse mes entraînements pendant les créneaux de sport prévus dans mon travail.
Ça représente combien d'heures d'entraînement ?
Moi, à l'année, je suis sur une moyenne de 15 heures par semaine. Tout sport confondu, hein, pas uniquement course à pied. Voilà, classiquement, je vais aller monter sur une trentaine d'heures pendant les semaines de charge des gros objectifs. Et pendant la basse saison, voilà, je vais être plutôt autour de 10 heures. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment tout sport confondu, hein. J'ai vraiment, moi, maintenant, course à pied, vélo et renforcement musculaire. Je pense que lissé sur l'année, je suis pas à 30% de temps chacun, mais pas loin.
D'accord. T'y es venu naturellement ou c'est enfin c'est t'as une appétence par exemple tu parles de vélo parce que je t'ai vu tu fais du ski aussi des choses comme ça ou c'est ou t'as trouvé que c'était une nécessité pour progresser en fait?
Classiquement, le vélo de route, j'y suis venu, je pense, comme beaucoup de trailers, par la blessure. Voilà, première blessure, tu peux plus courir. Bah, quand tu as tourné un petit peu trop en rond, un peu trop en rond autour de la maison et dans la maison, tu te dis, ah, tiens, le vélo, ouais, ça fait longtemps que j'en entends parler. Bah, allez, prends, je m'y mets. Et puis, ouais, tu découvres que c'est un levier énorme. C'est vrai que c'est pas dans la culture souvent américaine, mais dans la culture française, il y a beaucoup de trailers qui font du vélo. Et moi, je pense que en tout cas, personnellement, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pareils. Là où j'ai passé le cap, on va dire des courses de 80 km pour passer sur l'ultra, bah c'est le vélo qui a fait la différence. Moi, je le vois dans mes entraînements. Comme je te l'ai dit, quand je fais des périodes où l'été, pour préparer les gros objectifs, j'ai passé sur 30 heures, c'est pas forcément la course à pied que je vais augmenter. C'est plus du temps de vélo qui va être mis par-dessus l'entraînement normal en course à pied et qui va apporter cette plus-value, quoi.
Ouais, mais 30 heures, c'est énorme.
Ouais, sur les grosses semaines, c'est énorme. Après, sachant que moi, quand je fais 30 heures d'entraînement dans une semaine, c'est évidemment sur des semaines de vacances. Je vais beaucoup coupler. Après, tu sais, ça va très vite aussi. Une grosse sortie de vélo, bah voilà, l'été, il fait jour à 5 heures du matin. Tu pars, tu fais 4 heures de vélo. Pour peu que tu rajoutes une heure de course à pied. Et puis nous, on a une appétence particulière dans la famille pour la randonnée. Et que bah voilà, on va faire 3-4 heures de rando l'après-midi. Tu montes vite sur ouais, tu peux monter sur une journée de 10 heures assez vite au final. Donc voilà, on arrive toujours à trouver des arrangements. Moi, je suis très bah, comme toi, très sport du matin. C'est assez facile pour moi de mettre 1 à 2 heures le matin avant que ma femme et mon fils se réveillent. Et après, bah, voilà, on va dire comme un couple normal, on arrive chacun à se dégager du temps pour nos activités perso, et ensuite on arrive à mettre des activités familiales. Donc moi, comme je te l'ai dit, voilà, une semaine, un bloc où on va aller en vacances, on va dire, à la montagne. Moi, je vais prendre 2 heures de perso, on va dire, le matin pour aller courir. Et puis après, on va pouvoir, ouais, aller faire une belle grande randonnée en montagne avec ma femme et mon petit. Là, je pense que c'était la dernière année où il montait dans le sac. Donc voilà, c'est pareil, quand tu fais 4-5 heures de rando avec ben voilà, le petit, le sac, la bouffe, ouais, t'as 30 kilos sur le dos, je peux te dire que les mètres de dénivelé comptent double ou triple. Et c'est souvent, ouais, ce qui m'a permis de faire des beaux blocs d'entraînement.
Ouais, c'est-à-dire que c'est ton gilet lesté à toi, quoi.
Voilà, ouais. Ouais. Le gilet lesté qui, soit maintenant, voilà, te donne des encouragements ou ronfle éperdument pendant que toi, t'es à la manœuvre, quoi. Donc, c'est vraiment un gros plaisir de pouvoir partager ça.
Et pour autant, bien entendu, pour le corps, 30 heures, comment ça se digère?
Eh bien, je te dirais qu'il y a eu une époque où c'était assez compliqué. Maintenant, ça va en fait. Je me connais beaucoup mieux. Il y a, voilà. Après, il y a pas 50 secrets. Après, c'est le sommeil et la nutrition qui font le boulot à partir du moment où tu as bâti les bases pour que ton corps puisse encaisser. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es bien entraîné, chacun à son niveau, que ce soit pour de l'ultra, pour du 10 km, pour du 80 km, une fois que musculairement et puis ouais, tout ce qui va être osseux, tendineux et relativement adapté à l'effort, et ben c'est d'entretenir la machine et savoir moduler le repos et la nutrition en fonction des charges d'entraînement. Mais ça, évidemment, ça se fait pas en un jour, et c'est vraiment propre à chacun.
Oui, parce que on va le dire, c'est que ça n'a pas été si simple que ça, hein. C'est le surentraînement, c'est quelque chose que tu connais, hein.
Oui, voilà. Moi, je peux. On va venir dans le cœur du sujet. J'ai connu, bah, quand j'ai commencé à faire du trail, en fait, et un petit peu allongé à distance, tu vois, quand j'allais chercher Ouais, mes premiers 80 km, j'ai connu le surentraînement, le vrai surentraînement. Genre, on entend souvent ce terme à tort et à travers. Voilà, comme tu le disais, peut-être aussi par des gens qui ont de la surcharge, qui vont dire oh, je me surentraîne. Non, t'es juste fatigué. Ça fait 2, 3 semaines que t'es pas bien. C'est juste passager. Non, non, moi j'ai connu le vrai surentraînement avec les, on y reviendra, les signes médicaux très marqués. Et qui s'implante sur moi, ça a été sur plusieurs années avec des modifications médicales, corporelles, chimiques et qui vont jouer après sur des facteurs sociaux, des facteurs d'humeur, voilà, sur vraiment tout un mode de vie et qui peuvent créer de gros problèmes et qu'on voit peut-être de plus en plus se développer dans nos sports aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus, et c'est vrai qu'en creusant le sujet, et moi je me rappelle l'épisode de Denis Richer disait, il y a quand même des sports qui ont tendance à créer du surentraînement, les distances de plus en plus longues. Alors, on parle beaucoup des triathlètes, mais en fait, je me rends compte que ton temps d'entraînement par rapport à un triathlète, il est encore bien plus important. Et c'est vrai qu'il disait qu'il y a quand même une bonne partie d'athlètes, et notamment dans l'ultra, qui sont probablement surentraînement, mais qui ne le disent pas en fait. Et c'est ça qui est intéressant de le dire, c'est parce que on peut dire il y a des moments où on peut avoir de la fatigue, mais c'est quoi qui te fait basculer dans le surentraînement en fait? À quel moment tu t'es dit, il y a un moment donné là, c'est il y a un truc qui va pas quoi?
Ben, il y a plusieurs choses hein, déjà dans ce que tu dis. Le temps n'est pas forcément corrélé au surentraînement. Moi, je m'entraîne aujourd'hui plus qu'à l'époque où j'ai fait un surentraînement.
D'accord.
Ça, c'est déjà une chose qui est certaine. Mais oui, c'est forcément quand il y a un certain volume. Mais tu sais, je pense que ça se développe de plus en plus aujourd'hui. Alors, on en parle. On en parle beaucoup plus du côté féminin. Des tabous commencent à se briser. Côté masculin, c'est plus compliqué. On va revenir dessus. Parce que s'il y a des tabous au niveau féminin, et je pense sans aucune arrière-pensée, sans sexisme ni rien, que c'est peut-être plus facile pour une femme d'assumer ses symptômes que pour un homme. Mais c'est surtout, voilà, on en parle beaucoup avec le RedS, tu as fait plusieurs sujets là-dessus, et c'est surtout ça en fait qui va conditionner. Parce que même si tu t'entraînes pour un 10 km, tu peux tomber en syndrome de surentraînement à partir du moment où ta balance énergétique n'est pas bonne ou ton repos n'est pas bon. Et malheureusement aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse cause et conséquence de la médiatisation, de l'hypermédiatisation et des réseaux sociaux à ces phénomènes. Parce que c'est aujourd'hui ça qui peut mettre la pression à bon nombre de personnes et d'athlètes.
Et puis, c'est vrai qu'il y a les distances qui augmentent. Enfin, à une époque, enfin, moi, quand j'étais gamin, on disait, oui, mais les marathoniens, ils courent pas, ils font un marathon ou deux dans la saison. On entendait des trucs comme ça, tu sais, quand j'étais gamin. Bon, moi, je suis vieux, hein, j'ai 46 ans. Mais moi, j'entendais, à l'époque, les SEM, il y avait Moncio qui était dans les meilleurs français et tout. On disait, oui, mais il en fait un ou deux, il peut pas en faire plus. Et puis, je rappelle, un marathon, c'est 42 km. Mais quand on voit que dans la saison, t'as fait quoi? 1, 2, 3, 4 ultras.
Oui, voilà, moi je vais être à peu près à ça, 3 ultras.
Ouais, 3, 4 ultras. Me rappelle Camille Brouillasse, à la conférence de presse de lancement du VVX, qui disait, un UTMB 170 km, ça se digère pas facilement quand même. Hein, ça se digère pas facilement.
Non, non, c'est sûr.
Et tu dis, t'en enchaînes 3 dans la saison. Et on a l'impression qu'il y a toujours, puis l'ultra se développe, le trail se développe en lui-même, hein, c'est vraiment une discipline qui s'est beaucoup développée, alors que les courses sur route sont en train de tomber un petit peu en désuétude pour certaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ça, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour arriver dans ces distances-là, dans ces efforts-là, sans exploser en vol? C'est la vraie grande question, je pense que plein de gens doivent se poser parce que il est là le problème, c'est-à-dire c'est augmenter le volume, l'intensité d'entraînement, tout en étant capable de l'assumer sur le plan du corps, du repos, de l'hygiène de vie, quoi.
Alors, oui, dans ce que tu dis, je pense qu'aujourd'hui, faire 3 ultras par an, si tu places bien le repos entre les périodes, c'est pas déconnant. Parce que par rapport au marathon, on en revient à ça, on est sur des efforts quand même d'intensité beaucoup plus faible. C'est plus la mécanique qui va s'user que le système cardio ou nerveux. Mais la vraie question, dans ce que tu me dis, moi, je pourrais te reposer une autre question. Dans ceux qui enchaînent beaucoup d'ultras, 4, 5, 6, par an, voire plus. La vraie question, c'est oui, on a des athlètes qui font ça, on a des athlètes qui sont performants, mais combien ont duré ? Combien ont fait plus de 2, 3, 4 saisons ? Il y en a qui enchaînent, qui font des très belles performances. Alors, il y en a qui arrivent à être constants, il y en a qui durent, mais il n'y en a pas beaucoup qui durent. Au plus haut niveau, 2, 3, 4 saisons, et après, ben, souvent, tu vois des gens qui passent à la trappe. Parce qu'on a tous, je pense, des réserves énergétiques, psychologiques et de biomécanique qui, au moment donné, oui, si tu ne régénères pas, tu peux être très, très, très fort. Il y a un moment donné, tout le monde doit passer à la caisse. C'est physiologique, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'athlètes, et peut-être de plus en plus, qui font voilà, 2-3 saisons fulgurantes et qui après, passent à la trappe.
C'est vrai que certains arrivent à durer. Alors, ça serait intéressant d'ailleurs de regarder comment ceux qui arrivent à durer, comment ils gèrent leur saison, parce que, bon, Kyle Jornet, il gagne son 4e UTMB. Mais c'est vrai qu'il a une gestion de saison qui est aussi très particulière depuis quelques années. Hein. On n'est pas du tout mêmes saisons. Quoi.
Il a une grosse approche scientifique où il fait très attention à tous les paramètres qui sont autour de la course. Ça n'empêche pas que Kylian Jornet s'est quand même mis un petit moment au vert où il est plus passé. Il n'a pas coupé, mais il est passé sur d'autres sports. Il a eu ses gros projets en alpinisme avant de revenir sur le trail. C'est quelqu'un qui fait beaucoup également d'entraînement croisé, et c'est quelqu'un qui fait super attention et qui s'expose pas dans les réseaux sociaux médiatiquement, qui montre ce qu'il a fait quand il l'a fait, mais qui n'est pas dans l'hyper exposition et je pense qu'il gère très intelligemment ses saisons.
Ouais, et alors à l'inverse, et ça c'est un débat parce qu'il y a souvent ce débat là, mais un jour j'arriverai à l'inviter, l'ami casquette verte qui enchaîne et qui alors que j'appelle un peu la rockstar quand même dans le domaine, hein, mais qui enchaîne des sorties, qui enchaîne les ultras, qui ce week-end a gagné la Lyon-Saint-Élion, donc l'aller-retour pour la troisième fois, donne aussi un exemple qui est pas facile à suivre. Je sais pas si lui, s'il fera partie de ces fameuses étoiles filantes dont on parlait, mais c'est ce modèle-là, il est, à part lui, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont capables de le suivre, en tout cas, le risque d'explosion, il est pas loin, là.
Tu vois, pour avoir partagé pas mal avec Alex, on a pas mal couru ensemble à la Diagonale des Fous et on a fait l'UTMB quasiment tout du long ensemble cette année. C'est pas pour parler spécialement de lui, mais déjà t'as deux personnes, t'as Alex et t'as Casquette Verte. Ouais. Il y a le personnage et il y a l'humain qui sont pour moi totalement dissociés. L'image qui est retranscrite par Casquette Verte dans les réseaux sociaux, oui, on peut voir quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui fait énormément de bornes, beaucoup de courses. Il n'empêche, on le cite souvent et c'est tout à son honneur, il arrive à faire des choses vraiment, c'est compliqué. On aime ou on n'aime pas, on peut pas lui enlever que tu vois cette année il va courir 10 000 bornes, c'est quand même quelque chose d'énorme.
Ouais.
Après, je pense que c'est quelqu'un aussi. Même si on voit sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est très certainement un épicurien, qui aime bien boire sa petite bière, qui mange bien et tout, ça fait peut-être aussi partie d'une balance énergétique qui peut être à l'équilibre. Et il faut pas oublier que Alex, c'est quelqu'un aussi qui va être un sportif relativement sédentaire, qui a un emploi à Paris de bureau où la journée. Ça lui permet de se reposer. Oui, il va mettre 2, 3, 4 heures d'entraînement dans la journée, mais à côté de ça, il va pouvoir aussi avoir du temps pour le repos, pour régénérer et exploiter ses capacités qui sont très certainement bien au-dessus de la moyenne, mais vont lui permettre de pouvoir enchaîner ses courses. Après, il n'est peut-être pas, et c'est une quasi-certitude, à 100% tout le temps. Mais sur l'ensemble des ultras qu'il fait, il arrive à sortir de belles perfs.
Ouais, et c'est vrai, et c'est marrant de le rappeler, l'histoire sur la sédentarité, parce que toi t'as écouté les épisodes sur la sédentarité, je m'en doute, mais on le disait, on peut être sédentaire et faire beaucoup de sport, et c'est vrai que du moment que t'es assis 7 heures sur une chaise dans ton bureau, parce que c'est dans son cas, probablement si tu travailles dans des bureaux, faire les 2-3 heures de sport, ça t'enlève pas que t'as quand même une partie de la journée que t'es sédentaire, alors que t'as des gens qui, et c'est peut-être d'ailleurs ton cas en tant que gendarme, je sais pas comment tu l'exerces, c'est à quel point tu bouges dans une journée, toi.
Oui, c'est ça. Moi, il y a des journées où on bouge beaucoup. Je travaille la nuit. Donc ouais, c'est des journées où il faut prendre en compte et ben la charge physique et la charge mentale. Aujourd'hui, bah t'as les t'as toutes les montres qui sont des trackers d'activité, donc tu vois où t'en es. Et pour en revenir à ça, oui, tu vas avoir des gens qui vont peut-être exposer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui vont faire 15 heures d'entraînement par semaine, je prends un exemple aléatoire, mais qui à côté de ça vont être très sédentaires, vont avoir du temps pour récupérer. Je pense aujourd'hui tu parles à un charpentier qui bah voilà va être dehors 8 heures par jour dans des températures très chaudes l'été, très froid l'hiver, à porter de grosses charges toute la journée. Si lui sur Strava il expose 5 heures de sport, je pense que c'est quelqu'un qui a une charge sportive et mentale et des contraintes physiologiques qui sont bien supérieures à quelqu'un qui va s'entraîner dans un relatif confort quotidien. C'est des choses à prendre en compte. Mais après, voilà, sur le regard extérieur, il faut savoir avoir cette relativité et se rendre compte de ça.
Et je crois que c'est important de le dire parce que c'est vrai quand on regarde les réseaux sociaux, les performances, on voit les choses, on se rend pas compte de l'envers. On voit pas l'envers du décor.
C'est ça.
Le nombre d'entraînements, l'organisation. Toi, tu l'as dit, hein, t'es papa, t'as du travail de nuit, t'as un travail où tu peux avoir de bouger beaucoup, etc. Donc tout ça, on le voit pas. Et c'est pour toutes les personnes en fait, on le voit pas. C'est-à-dire que moi je dis tout le monde a sa tartine de merde, que mais bon c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de la montrer, mais que de répliquer ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ben, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas forcément répliquer. C'est pour ça que c'est important d'en parler et de ce détail. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Casquette Verte, un jour, j'aimerais bien la voir parce que pour qu'il explique aussi, pour qu'on voit un petit peu les choses. Rappelons aussi qu'il a arrêté de fumer il y a que un an, hein, donc on peut estimer aussi qu'il a vraiment quand même des qualités qui sont vraiment assez incroyables, je pense, hein, soyons honnêtes. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi l'envers du décor et de voir toutes ces choses-là. Et il y a une question, tu vois, pour revenir à ton cas, mais on parlait tout à l'heure du surentraînement, justement, et c'est le cœur un peu de cet épisode. À quel moment, toi, tu te rends compte que tu es en surentraînement?
Moi, je m'en rends pas compte. Et je m'en rends pas compte, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui tombent là-dedans, notamment, voilà, pour en revenir avec la pression, que ce soit des réseaux sociaux ou totalement autres. C'est par le développement des sports, de l'ultra distance, de l'ultra toujours, le toujours plus, et de toute façon, ça restera toujours le propre de l'humain. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que tu t'en rends pas compte. Tu cours un petit peu plus. Moi, comme je dis, j'ai commencé à courir. On va prendre un cas classique. Tu commences à courir, tu te dis, bah tiens, je vais commencer à m'intéresser au basket. Je vais acheter un petit peu mieux. Puis après, je vais regarder l'équipement. Puis, ah, tiens, il y a des sacs d'hydratation. Je prends un sac d'hydratation. Et puis, je vais faire un petit peu plus de montagne, un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça. Et puis, je vais commencer à faire attention à la nutrition parce que tu commences à avoir des bases. Et puis, dans tout, tu es autodidacte. Et au fur et à mesure que tu as de plus en plus d'activités, pour en revenir à la balance énergétique et au REDS, t'as plus de besoins, t'as plus d'appétit, plus d'envie, mais tu te retrouves dans un schéma, j'en reviens au même, social, où quand tu te retrouves à table, en famille, entre amis, tu te resserres une deuxième fois, mais tu vas pas non plus te resserrer une deuxième fois du dessert, et puis une deuxième fois du fromage. Tu te dis, tiens, le regard des gens quand même. Mais en fait, c'est des besoins énergétiques que t'as, et t'as fait un épisode avec Valentin sur les sportifs du vélo, où tu dois faire des collations toute la journée. Mais en fait, t'es pas dans la... Moi, j'avais l'impression de ne pas être dans la norme, tu vois, si j'étais toute ma journée en train de bouffer. Donc en fait, tu restes sur un schéma de vie classique, mais où tu augmentes ton sport, idem, comme on l'avait dit, pour le sommeil, pour les contraintes familiales, ça, tu gardes, comme tu l'as dit, ta tartine de merde, tu la gardes, mais à côté de ça, t'en rajoutes. T'as cette balance qui se déséquilibre, mais tu t'en rends pas compte. Et tu continues à faire ton sport, tu continues parce que tu as pris cette habitude, parce que c'est bon pour toi, parce que ça te fait du bien, parce qu'il y a des hormones, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, ben voilà, je pense que tu reviendras peut-être plus en détail avec Laure là-dessus, et pourquoi pas participer en off aussi dessus. Tu as des équilibres hormonaux qui commencent à se faire. Ces déséquilibres hormonaux vont avoir des impacts sur toi, sur ton humeur, sur ta vie. Et moi, voilà, pour en venir aux symptômes, grosso modo, moi j'ai eu une perte d'appétence pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu te retrouves pas à dire non, je bois pas d'alcool parce que parce que je suis sportif ou quoi, c'est non, c'est que t'as plus envie de sortir en soirée, t'es fatigué, tu n'as plus envie de regarder une comédie à la télé, tu vois, tu perds ces petites choses, j'avais plus envie de lire. Et puis voilà, moi j'ai pas de tabou là-dessus, il faut le dire. Moi j'ai eu un électrochoc un jour, c'est que ma femme, et j'ai, voilà, c'est pour ça que je dis que le tabou au niveau masculin est peut-être plus compliqué qu'au tabou féminin. Moi, c'était très compliqué, en fait. Un jour, ma femme m'a dit, mais c'est quoi la dernière fois que t'as eu un fou rire? Et ça a été un électrochoc pour moi. C'est que, tu vois, justement, tu te robotises. Ton corps se met toujours en réserve. Et en fait, voilà, tu n'es plus, tu as limite des symptômes dépressifs.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est que ça ressemble à la dépression, ouais. Ça.
Voilà, tu n'as plus d'appétence au quotidien. C'est difficile à vivre pour ta famille. Moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir ma femme qui a levé les doutes, en fait, dessus. Et c'est pour ça que bon nombre d'athlètes qui sont dans ce cas-là sont célibataires ou peuvent rapidement le devenir avec un isolement social. Et ça, c'est très compliqué. Et ensuite, au niveau, moi, de coup, je suis tombé sur la fracture de fatigue. Parallèle fait avec les femmes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le premier symptôme pour les hommes, hormis tout ce que je t'ai cité, c'est quand tu es déjà dans un stade avancé. Pour les femmes, c'est peut-être plus facile de parler d'aménorrhée, parce que voilà, il n'y a pas de tabou, on va dire, avec les médecins. Il y a peut-être un tabou social, familial, mais ce qui est vraiment compliqué pour un homme, et il faut dire les choses comme elles sont, les dire avec des mots appropriés à un podcast, mais le premier des symptômes, je dirais, c'est le dysfonctionnement de la fonction érectile au matin.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose que tu perds. Tu t'en rends pas compte. Mais en fait, et j'appelle l'ensemble, on va dire, des hommes qui éventuellement pensent avoir être en symptôme de surentraînement, c'est le premier symptôme à prendre en compte. Si pour une femme, ça peut être l'aménorrhée, pour un homme, c'est ça. Quand ça t'arrive, c'est que tu commences à avoir la testostérone dans les chaussettes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas facile à parler avec son médecin, qui est pas facile à parler avec sa femme, qui est pas facile à parler avec le monde en général. Mais c'est quelque chose qui arrive et auquel il faut faire très attention. Là-dessus, beaucoup de documentation et de références plus sur les gens qui pratiquent le bodybuilding.
Ouais.
C'est plus commun. Parce qu'ils vont avoir des diètes très restrictives, beaucoup d'entraînement, et c'est quelque chose qui est plus connu, et par la pratique du dopage, faut pas se mentir. Mais voilà, et puis moi après je me suis retrouvé chez le médecin, tu fais une prise de sang, et oui, tu te rends compte que tes hormones sont complètement déréglées. Et après, il y a un parcours médical qui ressemble à comment dire, ouais, c'est le parcours de la croix, quoi, hein, pour trouver un médecin qui va être formé, qui va avoir les compétences là-dessus, qui va pouvoir t'aiguiller. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles hormones, on dit endocrinologue, mais aujourd'hui, en France, et je ne jette absolument pas la pierre sur les médecins, les endocrinologues sont quasiment tous pour le diabète. Ce sont des diabétologues, au final, qui n'ont pas cette compétence au niveau sportif, au niveau syndrome Reddes. Et c'est très compliqué. Moi, ça a été, c'est pour ça que ça a duré plusieurs années avant de pouvoir sortir de ce schéma. Parce que même quand tu as un médecin compétent, il va te dire, réduisez le sport et augmentez les calories. Oui, c'est bien, mais c'est pas facile pour tout le monde, quoi. T'as beau avoir des compétences, des connaissances, demain, réduire le sport, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être difficile à mettre en place, mais qu'il faut, ouais, je pense qu'il faut partager, il faut en parler. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que tu as aujourd'hui des sportifs qui vont avoir des grosses contraintes autour du sport, qui vont en plus rajouter du sport, qui vont en plus avoir une certaine pression autour d'eux, et c'est ce qui peut rapidement faire sombrer dans le surentraînement. Et quand on arrive à la fracture de fatigue, c'est souvent trop tard, quoi.
Et disons-le, toi, t'es pas professionnel, t'as un métier à côté, parce que si on pense à ceux qui voleraient les pros, etc. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas chez les pros, mais il y a quand même énormément d'athlètes qui se blessent, hein. Tu disais, il y a des étoiles filantes, etc. Mais quand on regarde, et on en parle entre elles, il y en a dans le triathlon aussi en pagaille, le nombre de blessures, de choses comme ça qui arrivent, C'est vrai que ça, il y a des questions qui se posent quand même sur certains, c'est comment on arrive à le gérer, comment on le fait. Mais quand t'as des, quand on gagne pas, on dépend de ça. Enfin, c'est ingérable cette histoire-là en fait. Tu dois faire des performances, tu dois t'entraîner. C'est super. C'est, je sais pas comment toi, si t'as des contacts d'autres sports, tu disais, tu discutais avec certains et tout. Si tu le vois, comment eux ils le vivent, mais ils ont plus la pression de leur gagne pas là-dessus.
Oui, voilà. Bah après, les sportifs professionnels, je pense aujourd'hui, c'est voilà, on en a parlé parce que ça se développe beaucoup plus au côté féminin. Donc, les pros qui sont vraiment dans des structures sont certainement beaucoup plus sensibilisés, ou surtout, tu as un staff médical. Mais après, dans le trail, on parle de pros, mais c'est quoi être pro aujourd'hui? C'est avoir des partenaires qui te rémunèrent. Des partenaires souvent équipementiers, c'est pas un staff médical. Je suis pas en train de dire qu'ils en ont rien à faire. Mais ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses de la pub pour leur équipement et que tu fasses des perfs, tu vois. Et si demain t'es blessé, bah t'es plus rentable. Voilà. C'est aujourd'hui la pression. Je comprends qu'il y a des athlètes rémunérés ou qui ont des gros sponsors qui se mettent la pression et qui vont jusqu'à la blessure et qui ne sont pas assez bien suivis médicalement parce que oui, ils ont cette pression du résultat et des partenaires. On est dans un sport, le trail, ça a beau être médiatique depuis quelques années, d'être très suivi, ça reste précaire. Qui en vit et qui en vit sereinement en disant j'ai un contrat au-dessus de la tête, c'est bon, je suis tranquille pendant 4-5 ans. On n'est pas, voilà, on n'est pas comme dans les, tu vois, t'avais l'épisode avec Valentin, dans une équipe cycliste où il va y avoir un médecin pour suivre tout, c'est chacun fait sa popote, même les grands athlètes, ils font leur popote de leur côté, et puis les sponsors sont juste, pour 90% d'eux derrière pour donner les sous, l'équipement et récolter les médailles. Donc ça c'est une pression qui est ouais qui doit être qui est compliquée qui n'aide pas à pouvoir cycler et comme tu l'avais dit tout à l'heure pareil pour limiter le nombre de courses par an, le nombre d'ultra. Aujourd'hui un athlète qui va être rémunéré ne peut peut-être pas se permettre de mettre une seule course dans la saison. Même un seul ultra au risque bah, que ça se passe mal parce que sur un ultra il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte que ça se passe mal et qu'il ne fasse pas briller la marque et auquel cas les sponsors ne peuvent plus être intéressés par cet athlète et ça aussi c'est quelque chose qui est compliqué.
Ouais et puis là on le dit là t'es en période de repos toi mais en fait la saison on a l'impression qu'elle s'arrête jamais maintenant qu'il y a toujours des courses entre les hivernales entre le printemps l'été les enchaînements de courses les circuits des Golden Series et compagnie enfin on a l'impression qu'il y a des courses tout le temps
oui il y en a tout le temps mais après ça je pense que c'est pas lié aux athlètes c'est lié aux organisations t'as de plus en plus d'orgas de plus en plus de grosses orgas qui vont brasser de la pub de l'argent de l'exposition sur les réseaux. Et ces orgas, bah, c'est pareil, elles peuvent pas toutes être la dernière semaine d'août. Sinon, elles se marchent toutes dessus. Donc, eh ben, on étale un petit peu, on étale les calendriers, on étale les circuits. Et oui, t'en as toute la saison pour tous les formats, quoi. Et après, bah oui, tu peux avoir des gens qui ont envie d'être partout tout le temps, quoi. Parce que il y a plein de courses qui font rêver, il y a plein de calendriers qui font rêver. Et pour peu que tu aies de la disponibilité, bah, tu te retrouves vite à mettre un dossard toutes les deux semaines si t'as envie, quoi.
Il y a des d'ailleurs tiens il y a des trucs où on te dit des fois on pourrait dire tiens tu pourrais pas venir sur telle course ou tu sais on dirait tiens ça serait sympa que tu viennes ou quoi que ce soit tu dis non là il faut pas ça fait trop.
Alors moi j'ai pas ces contraintes là, j'ai pas le niveau pour avoir des invitations à toutes les courses, ça m'arrive. C'est arrivé de par notamment le team, on peut avoir des invitations mais après non moi je cadre maintenant, j'ai 32 ans, je me rends compte de pas mal de choses. Ça fait quelques années que je cours. Comme je t'ai dit, j'ai ce recul sur le fait de moduler ma charge. Donc, je fais attention. Mais oui, je comprends que, ouais, quand tu peux t'inviter à des courses et tout, t'as envie d'aller un petit peu partout. Moi, cette année, tu vois, j'ai déjà planifié à 80% de ma saison 2023 et je n'irai pas faire le coquin à en rajouter. Hormis, comme on l'a dit en début d'épisode, et ben, pourquoi pas aller accompagner un membre de ma famille, un ami, mais sans contrainte de résultat.
Comment tu t'en es sorti finalement de ce surentraînement? C'est-à-dire que tu dis, bon, il y a un déclic quand même, ta femme, tu as des signes quand même, signes dépressifs, etc. Là, mais tu dis, je ne m'en rends pas compte au départ. Donc, il y a un moment quand même, tu vas voir des médecins. Bon, peut-être qu'ils soient bon, formés, pas formés, après c'est difficile. C'est quoi après l'étape pour arriver à remonter, j'ai envie de dire, envie de remonter la pente en fait?
Ben voilà, moi, comme je te dis, au niveau médical, j'ai eu des bons et des mauvais médecins, en tout cas dans ce domaine-là, pour mettre une parenthèse. Et ben après, voilà, t'es pas plus bête que la moyenne. Tu te rends compte que l'analyse de sang, c'est pas bon. Tu te rends compte que ça va pas durer et que bah, t'es pas éternel. Donc moi, à l'époque, on n'avait pas encore fait d'enfant. Donc là, tu te dis, bon, bah, ce qui touche au système hormonal, bah, voilà, on va pas se mentir, hein, c'est ce qui est la fonction reproductrice. Donc, si tu as envie que ça se passe bien et de pouvoir réaliser, bah, voilà, moi, ce qui était mon rêve, je ne juge pas les gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, hein, évidemment, mais d'avoir un enfant, bah, il faut remettre les choses en place. Et puis, comme je t'ai dit, hein, tu te rends compte que oui, tu as tous les signes de symptômes relativement dépressifs, que ça va pas, que tu peux plus assouvir tes passions, tout ça. Donc, ouais, faut se reprendre en main. Donc, eh ben, diminution, et puis blessure, évidemment. Donc, bah, diminution, de la charge d'entraînement. Parce que blessure, fracture de fatigue, test de densitométrie, osseuse, et puis tu te rends compte que finalement, tu as le système osseux d'une femme ménopausée. Voilà,
Ah oui,
sans jugement non
c'était
plus.
ouais, c'était à ce point, ouais.
Donc, oui, non, moi, j'ai tapé fort, fort, fort. Hein. Je dis, c'était pas une simple surcharge.
T'avais quel âge en
Donc, bah, voilà,
fait?
il faut. Moi, j'avais 25, 26 ans.
Attends, à 25-26 ans, en fait, t'avais le squelette d'une femme ménopausée, donc il y a
Ouais, dans le
plus que deux
début,
fois
ouais.
plus ton âge, quoi.
Ah ouais.
Ouais.
Donc, non, non, ouais, voilà, quand on parle, ouais, de surentraînement et des symptômes, ouais, c'est pas rien, tu vois. On en revient pour les femmes, quand on parle du syndrome Reddès, pour les aménorrhées et tout, des petites blessures. C'est sûr que si tu mets les œillères, tu dis, bah, c'est pas grave, j'ai juste pas mes règles pour les courses, c'est du confort, et puis, oh, j'ai fait une fracture de fatigue. Oui, mais j'ai fait une fracture de fatigue, c'est parce que je cours un petit peu trop, parce que j'ai mes semelles qui sont un petit peu trop dures et tout. Bah après, tu peux mettre les œillères, hein, mais t'inquiète pas, ça va te rattraper. Hein. Donc, ouais. Et ouais, pour m'en sortir, bah, tu documentes, tu diminues le sport. Voilà, je suis pas mal complémenté au niveau alimentaire. Augmentation, vraiment une grosse augmentation des apports caloriques. Ce qui pouvait en fait au début être un petit peu gênant et pas tabou, mais on va dire c'est vrai que quand à table tu te retrouves à manger comme quatre au sens propre du terme, les gens te regardent, qu'est-ce qu'il fait, il est boulimique, et ben non non c'est juste que ouais c'est des besoins. Et maintenant moi c'est une norme chez moi. Voilà, tu me verras pas moi en fin de sortie sur les réseaux sociaux te montrer un demi-bol de riz avec un avocat, avec ma sortie Strava, j'ai fait 50 bornes et 1000 mètres de dénivelé. Non, c'est. Alors peut-être que pour des gens c'est possible, écoute, je leur laisse, mais moi c'est pas possible. Oui, ça sera très bien pour une entrée ou une collation, tu vois. Mais voilà, quand on passe à table. Quand t'as fait 80 km, il faut en remettre. Donc ouais, ça passe par ça. Et bah voilà, c'est retrouver cette balance énergétique. Cette balance au niveau des contraintes sportives, et comme on dit tout à l'heure, familiales, professionnelles, remettre tout ça à l'équilibre, et puis bah, petit à petit, la nature étant bien faite, le corps se remet en osmose.
Et tu l'as dit, hein, parce que tu as dit un truc tout à l'heure qui était intéressant, hein, tu as dit peut-être que maintenant tu as un volume d'entraînement, hein, qui est peut-être supérieur à ce que tu avais à l'époque. C'est vraiment ce rééquilibrage, notamment sur le plan alimentaire, qui change la donne, et puis mieux te connaître, faire attention à certains signes.
Oui, voilà, c'est ça. C'est retrouver une balance au quotidien et puis aussi savoir cycler. Je m'entraîne plus, mais aussi plus intelligemment. J'ai un entraîneur. Je sais maintenant qu'il faut cycler les phases de repos avant compétition, après compétition. Même si c'est toujours, enfin, je dirais pas que c'est toujours compliqué, mais j'ai une appétence à être dehors. Moi, j'aime être dehors, j'aime courir. Quand mon coach me met repos 10 jours. Voilà, maintenant on se connaît. Il sait que quand il met repos 10 jours, moi je lis surposer au maximum, ne pas taper dedans. C'est-à-dire que je vais pas non plus rester enfermé à la maison à commencer à devenir fou. Non, bah, je vais aller faire un petit tour de vélo, je vais aller marcher. Si ma femme me dit oh, bah, je vais faire un petit footing, bah, je vais aller avec elle, tu vois. Mais ça va être de l'activité douce, du sport plaisir, du sport santé. Et vraiment juste à l'envie, quoi. Il n'y a aucune contrainte. Je ne me dis pas aujourd'hui, il y a entraînement, il faut. C'est aujourd'hui, je fais rien. Et puis, si j'ai envie, eh ben, que ça se passe bien, je vais aller faire un petit tour. Mais voilà, je vais garder. Ça restera du repos relatif. Et en tout cas, si c'est pas tant du repos pour les jambes, quoique quand tu fais juste une marche, c'est pas non plus violent, mais c'est surtout du repos pour l'esprit et sortir de sa charge mentale aussi, quoi, qui est très importante.
Tiens, et pourquoi est-ce que les gens se rendent compte? Je suis tombé sur une photo, je suis sur ton compte Instagram en même temps, et où tu marques un petit déjeuner en 2020, février 2020, où on voit 2 œufs au plat quand même, et puis quoi, de la patate douce, ça va être des carottes, 3 clémentines, c'est un petit déj, je précise, hein.
Oui, ça va être. Bon, voilà, maintenant je mange tout le temps très très salé. Pas
Ouais.
très salé. Je mange du salé, même les cornflakes à la maison. Je sais même pas si mon petit y a déjà goûté. Voilà, moi j'ai l'habitude de manger salé le matin, tu vois. Bah pareil, hein, pour revenir à l'éducation des enfants, lui on lui laisse toujours le choix, mais il a l'appétence aussi pour les œufs au plat le matin. Et oui, ça va être ça. Oui, il faut. Moi, ça fait partie d'un repas qui est très important, le petit déjeuner. Tu vois, si le matin je fais une sortie à jeun et que j'ai un deuxième entraînement dans la journée, ben ouais, il faut mettre du carburant dans la machine. Hein. Mais après, ça c'est voilà. Moi, je sais que j'ai un métabolisme qui est quand même assez haut. Je suis pour mon gabarit assez musculeux, donc oui, je vais avoir un appétit conséquent pour connaître pas mal de gars qui font de l'ultra. C'est vrai que j'ai un appétit qui est au-dessus de la moyenne. Mais pour en revenir au syndrome de surentraînement, par contre, j'ai vu des athlètes qui s'entraînaient et qui étaient dans la restriction et qui ne mangeaient quasiment rien, tu vois. En revanche, si moi, là, je vais me resservir 2 fois du riz, je pense qu'il n'est pas tout à fait normal, quand tu as été borné pendant 3 heures, de rentrer et de manger juste une salade et de pas vouloir mettre de l'huile dans ta vinaigrette, tu vois. Il y a juste mieux. Et c'est après, bah, des facteurs, voilà, c'est des petits signes révélateurs et tu te rends compte de certaines choses. Faut pas oublier qu'on est dans un sport, comme on a dit tout à l'heure, ça peut créer un isolement social, de vouloir trop en faire, et le toujours plus. Et après, ben, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, sans vouloir juger les gens qui n'ont pas envie de fonder une famille ou quoi. Voilà, tu peux peut-être gagner toutes les médailles, toutes les coupes, que tu veux en remplir des pleines armoires. Je pense que quand tu as 50, 60, 70, 80 ans, et que tu rentres chez toi, il y a de l'écho, et tu te mets sous la couette, le lit est tout froid, et que le téléphone sonne jamais parce que tu as une vie sociale qui est réduite au néant, tu peux avoir toutes les coupes que tu veux. Voilà, c'est pas, en tout cas, c'est pas mon modèle, et ma ligne de mire de vie.
Ouais, mais c'est pas le modèle non plus du vieillard galopant que moi je veux devenir et qu'on est plein de devenir parce que c'est vrai que dans ceux qui écoutent le podcast, il y a quand même beaucoup de qui sont parents et tout. Et c'est vrai que cette notion-là parle beaucoup parce qu'on a envie de profiter à la fois du sport, à la fois de l'équilibre de vie, de la famille, de l'entourage. En plus, là, c'est cool, on arrive vers Noël et tout. Ton petit doit être super excité là.
Mais oui, c'est ça. Il faut revenir aux fondamentaux. Moi, j'en reviens. C'est quelque chose qui me plaît aussi, tu vois, de parler de tout ce qui va être lié à la récupération. On a l'électrosimulation, la pressothérapie, les pistolets de massage. En veux-tu, en voilà de tout. On revient aux fondamentaux. Aujourd'hui, tu veux récupérer. T'as les jambes en vrac. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un masseur. Et c'est depuis la nuit des temps que ça se passe comme ça. Et c'est le meilleur des remèdes. Et c'est pareil, il faut en revenir aux fondamentaux. Si on fait du sport, c'est pour le plaisir. Comme tu l'as dit, nous, on a une famille, on partage ça. Moi, demain, je finis premier, je finis dixième, je finis cinquantième, je finis dernier. Je franchis la ligne. Mon fils, il me regardera comme un héros, tout pareil. Tu vois? Et ça a pas de valeur. Et fondamentalement, j'en reviens dans 20 ans, que j'ai fini premier ou dans le fond du peloton. Les souvenirs, les plus importants, c'est ça, c'est de se dire, bah, tiens, tu te souviens quand on était à la Diable, quand on était là, ce qu'on a fait, bah voilà. Faut pas oublier le fondement des choses, et on est dans une vie qui galope toujours plus vite, mais la base restera toujours la même.
C'est une belle leçon, je trouve, de le dire. Tiens, je voulais quand même revenir, tu vois. Je fais un petit aller-retour sur le sujet, mais tout à l'heure, tu parlais quand même tu dis que t'es assez musculeux. Je pense que les gens qui te découvrent, quand ils regardaient les photos, parce que moi, j'étais assez surpris quand je t'ai découvert, t'as pas la carrure d'un coureur à l'origine, en fait, je trouve, niveau de la développement musculaire, notamment du haut du corps, des bras et tout. T'es fait pas gringaler comme les autres en fait. C'est quoi? C'est naturellement t'étais comme ça? C'est l'entraînement gendarme etc. Tu parlais de la gymnastique ou t'as toujours été comme ça?
Alors, ouais, j'ai toujours été assez, ouais, assez musculeux, on va dire. Après, Bah, il y a de par mon métier, il y a de par j'aime bien le renforcement musculaire, j'aime bien la muscu, tu vois. Et puis tu vois, en trail, finalement, je me rends de plus en plus compte qu'il y a quand même de tous les gabarits, quoi. Oui, moi j'ai un gabarit qui est peut-être atypique, mais c'est pas non plus surprenant, notamment dans l'ultra, de voir de tout. T'as des grands fins, des petits trapus, des gens qui ont des carrures lambda, t'as des physiques de cyclistes avec des gros cuisseaux, des petits hauts du corps. C'est vrai qu'on voit de tout sur les lignes de départ et même sur les lignes d'arrivée dans le haut des classements et les hauts du peloton. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on arrive. On rentre pas encore tout à fait dans l'ultra, en tout cas, on rentre pas encore dans un cadre où on se dit il faut être telle morphologie ou telle autre morphologie est avantagée ou est en déficit par rapport à l'athlétisme où tu vois on va être bien plus normé quand même, voilà, sur du marathon on n'a pas encore vu de gens très charpentés être dans les premiers. Mais en ultra il y a tout, on voit de tout et pour en revenir quand on parle de gabarit ou de génotype, on a aussi, tu vois, de plus en plus, et ben voilà, l'écart entre les femmes et les hommes qui se resserre, de tous les gabarits, de tous les âges aussi. Hein. On a des gens qui ont 20 ans, des gens qui ont 50 ans. Donc voilà, c'est peut-être aussi un sport qui gomme tous ces aspects et où la performance se trouve peut-être plus qu'ailleurs dans des capacités autres que liées à la génétique.
Mais ce qui est bien de le dire aussi, c'est que ça montre que t'es pas obligé de, parce que les problèmes d'alimentation, on avait fait un épisode avec Yvan Rassat sur le fait que lui, il avait le sentiment qu'il fallait toujours qu'il soit toujours plus maigre, plus léger pour courir plus vite, etc. Et quand on voit toute ta morphologie, on n'a pas ce sentiment-là. C'est-à-dire que après, bon, j'ai pas idée de ton poids, combien tu fais, ton rapport et tout, mais on n'a pas cette image-là en fait quand on te voit. Et en fait, je trouve que c'est vachement rassurant aussi, tu sais, pour beaucoup de gens. Parce que moi, je préfère ton physique musculeux à ceux des certaines anguilles qu'on voit sur des lignes de départ de marathon. Tu vois, ils sont tout fins, on a l'impression que même le short moulant est trop large. Et je trouve que c'est un bon message aussi de dire qu'on peut faire, on peut performer en ayant quand même une masse musculaire qui est présente, quoi, tu vois.
Oui, de plus en plus, on le voit. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est en train de changer pas mal dans l'athlétisme. Où avant, on avait des codes, voilà, qui étaient peut-être imposés par les entraîneurs, par les fédérations. On a de plus en plus d'athlètes qui, je dirais pas avec des physiques lambda, mais qui, voilà, qui assument plus de ne pas être dans la maigreur excessive. Les triathlètes, tu vois, tu parlais du triathlon. Les triathlètes ont quand même des gabarits. Oui, il y en a qui sont très fins, très maigres. Mais pour le gros du peloton et le haut du peloton, sans parler de l'élite, vraiment, qui ont des gabarits qui sont très costauds. C'est des gens qui respirent quand même la santé et qui en imposent. Et après, oui, en course à pied, ben ouais, on en a de plus en plus. Pour en revenir à mon exemple, moi, par exemple, l'année dernière, tu vois, j'ai fait une bonne coupure, j'ai fait pas mal de. Voilà, je voulais gagner un peu de puissance en vélo, donc j'ai fait pas mal de renforcement musculaire. Et je suis arrivé en fait au début de la saison dernière où j'ai pris grosso modo 5 kilos, tu vois, l'hiver dernier. Et je m'étais dit, bah voilà, classiquement, bah, je vais les perdre pendant l'été. Quand je vais reprendre, eh ben pas du tout, je les ai gardés. Et tu vois, pourtant l'année dernière, je n'ai jamais été aussi puissant et même sur les séances de vitesse, je n'ai jamais été aussi rapide qu'avec mes 5 kilos de plus. Et pourtant, tu vois, bah, tu parlais de poids. Moi, je suis à 70 kilos pour 1,73 m. Et l'été, tu vois, je vais être autour de 67. Donc ça reste un gabarit relativement lourd. Et pourtant, je ne me suis jamais senti aussi bien. Et ça, c'est pareil, c'est propre à chacun, quoi.
Ouais, mais je trouve que c'est important de le dire. Et j'en ai vu d'autres, hein, des coureurs, parce que je pense à un notamment que j'ai en tête, que j'avais déjà eu en invité, qui disait qu'il avait pris, qu'il s'était pris du muscle, parce que justement, par le renforcement musculaire, parce que il y a poids et poids. Je sais pas quel est ton pourcentage de masse grasse, mais quand tu fais beaucoup de renforcement musculaire, quand tu fais du vélo, c'est vrai que tu développes du muscle, et donc la puissance que tu développes par ces activités-là, même si c'est du poids en plus, tu as aussi la puissance pour aller plus vite et pour résister mieux aussi aux distances et j'ai envie de
Oui,
dire à la
voilà.
gravité, quoi.
Mais notamment en trail. En trail, tu vas pas chercher forcément des vitesses. Voilà, on va avoir du. Sur les parties roulantes et rapides, on va faire du seuil et du seuil haut. On va pas aller chercher des vélocités très importantes et des vitesses très importantes. En revanche, c'est sûr que quand tu vas avoir beaucoup de montées, beaucoup de descentes, où il va falloir avoir de la puissance, de la résistance, Et ben, en tout cas, pour moi, je veux pas être dogmatique et généraliste. Et ben, c'est plus facile avec, avec des cuisses plus fortes, des jambes plus fortes pour encaisser ces charges-là. Un athlète, tu vois, qui a été extrêmement performant cette année, Mathieu Blanchard. Il y avait une photo qui est parue, je ne sais plus sur quel média, où on voyait ces trois années de trail où il avait progressé. Et tu vois que musculairement, il a muté. Ouais. Il a muté et il encaisse beaucoup mieux les chocs, j'imagine. Et quand tu vois l'UTMB qu'il fait, c'est impressionnant. C'est impressionnant.
Mais ça valide aussi, alors c'est un épisode que j'ai perdu dans les tréfonds d'une perte de disque dur. J'avais fait un épisode avec Sébastien Cornette, l'école du trail, où lui, il préconise justement, où il y a une grande partie de son approche qui est par la musculation, le renforcement. Mais quand je parle de musculation, c'est même mettre des charges au-dessus de la tête et autres. C'est des approches que tu as regardées, ça?
Ouais, très intéressant. Moi, j'ai le livre de Seb que j'ai lu. Je m'en inspire dans mes entraînements. Et c'est ultra enrichissant et intéressant. Moi, j'ai pas tant de contraintes à vouloir mettre du volume, mais c'est vrai que des fois, quand t'as un petit peu moins de temps ou même quand t'as du temps, plutôt que de courir entre guillemets, j'ai envie de dire bêtement pendant 2 heures, et ben tu vas faire une heure et demie, puis tu vas mettre ces belles charges à cette qualité. Au milieu où tu vas travailler musculairement et tu le sens. Moi, ça m'arrive de faire des séances de footing, mais je vais raccourcir mon footing ou ma sortie trail. Mais par contre, à la fin, je vais rajouter les petits quarts d'heure, les petites 20 minutes de renfo. Et même si on a l'impression, voilà, il y a des gens, c'est embêtant, qui n'ont pas envie, je te garantis que le lendemain ou le surlendemain, tu le sens, quoi. Ça n'a rien à voir. Tu te dis, oui, ça... Sur le quart d'heure, là, musculairement, en tout cas, j'ai bien plus tabassé qu'en un quart d'heure que si j'avais couru une demi-heure de plus. Où les jambes, les muscles sont adaptés à cet effort-là, bah là, tu leur donnes des contraintes qui sont différentes et des charges qui sont différentes et le travail n'est pas le même et tu crées des adaptations et créer des adaptations, bah, c'est ça qui fait la progression aussi.
Ouais. Tu disais que tu avais un entraîneur maintenant qui te suit. C'est quoi autour de toi, en fait? Donc, tu as un entraîneur. Tu as d'autres personnes qui t'accompagnent. Tu parlais tout à l'heure de massage. C'est quoi pour toi l'équipe que tu t'es constituée finalement pour t'aider dans ton entraînement?
Les petites routines. Alors, moi, j'ai un entraîneur. J'ai un partenaire pour les compléments alimentaires qui est NutriTing. Donc, on aime, on n'aime pas. C'est vrai que l'aspect de devoir se complémenter, c'est quelque chose qui est tabou. Moi, aujourd'hui, c'est un choix qui est totalement assumé, de par la pratique physique qui demande des apports conséquents, et de par aussi l'approvissement de tout ce qui va être nutriments, macronutriments dans l'alimentation au quotidien. Ensuite, c'est vrai que c'est des routines que j'aime bien autour des courses. Ça va être dans les 10 jours avant la course. D'aller au spa pour profiter de la récup, le massage. Qu'est-ce que je vais mettre en place aussi? Comme on l'a dit, il y a pas mal d'entraînements croisés, le vélo. Là, je suis en train de commencer, ce qui me tenait à cœur depuis quelques temps, d'être suivi au niveau prépa mental. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est important au quotidien. J'ai tendance à vouloir en faire toujours plus et il faut savoir aussi se le dire, j'ai un profil peut-être de manque de confiance en soi sur certains domaines et j'ai du mal, moi j'ai vraiment du mal à gérer, comme beaucoup d'ultra trailers, tu sais les fameuses 2 semaines d'affûtage avant la course. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand t'as mis 30 heures dans une semaine et puis que tu te dis qu'il faut réduire de moitié et encore un petit peu la semaine d'après, mentalement c'est difficile à gérer avec la course qui approche et la pression. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler parce que d'une, pour moi, c'est compliqué. Et puis de deux, je me rends compte que c'est compliqué aussi pour ma femme de me supporter dans ces moments-là. Bon, je pense qu'on est tous pareils, le sevrage forcé, on est un petit peu sur les dents. Donc voilà, mais c'est pareil, tu vois, c'est dans la recherche de l'équilibre, tout ça. Tu vois, plus que dans la recherche de performance. Quand je te dis tout ça, moi, c'est pas pour, je cherche pas après la course, à aller voir l'ostéo pour ou me faire masser ou quoi que ce soit pour être plus performant, pour plus venir mettre tout de suite. Non, c'est pour dans le côté santé, pour bien récupérer, remettre les choses en place et rebâtir de bonnes bases sans hypothéquer des semaines de vie.
Je pense le message le plus important en fait, hein, c'est de finalement de pas hypothéquer quoi, que le sport ça doit rester du sport et que ça doit pas nous ça doit nous améliorer notre vie, pas la détruire, hein. Et c'est vrai quand on tombe dans le surentraînement, c'est vrai qu'il y a chez les hommes on en parle moins, chez les femmes c'est vrai qu'il y a cette histoire de la ménorrhée qui est un marqueur. Et là tu avais parlé des marqueurs.
Qui commence bien à se développer, c'est très bien. Et tu vois ce que j'ai oublié de dire, c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel il faut rebondir là-dessus, c'est que malheureusement aujourd'hui, que ça soit pour les marques, que ce soit les team managers, que ça soit également les entraîneurs fédéraux, et tous les gens qui gravitent autour des athlètes, et ben que ouais, il faut pas avoir tabou, il faut en parler, il faut se former, il faut se documenter. Et c'est malheureux aujourd'hui d'avoir des entraîneurs qui disent oui, c'est normal que tu sois en aménorrhée, que un médecin dise oh, c'est pas grave, et qu'on pousse toujours plus à dire ah bah t'as quelques kilos de trop, tout ça. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et voilà, et quand un athlète je pense qu'il y a une barrière qui est compliquée avec le secret médical, tu vois, on va pas pouvoir demander à un athlète ben montre-moi ton bilan sanguin ou à une femme de montrer ben voilà une densitométrie osseuse, mais je pense qu'en tout cas c'est des dialogues qu'il faut instaurer, il faut former les gens et il faut peut-être aussi lever les doutes quant aux signes révélateurs qui peuvent montrer un dysfonctionnement.
Ouais, pour la santé. Et c'est vrai que c'est important, hein, parce que tu parlais de la densité densité osseuse, mais sur toutes les femmes avec lesquelles on a fait des épisodes le disaient, hein, cette histoire aussi de se retrouver avec un corps d'une femme ménopausée alors que t'as 25 ans, avec les risques que ça engendre, et puis le fait que récupérer, je sais pas si depuis cet épisode t'as refait des examens sur cette densité osseuse, si t'as repris, si t'en as retrouvé ou pas.
Je vais le refaire cette année là.
D'accord.
Parce que tu vois, du coup, ça fait un bon moment et je vais le refaire cette année parce que c'est quelque chose pareil qui est long à se remettre. Et mais oui, quand t'en arrives, la blessure entre guillemets classique du surentraînement, ça va être la fracture de fatigue. Voilà, quand t'en arrives là, il est trop tard. Il est trop tard. Donc il faut faire vraiment attention à tous ces signes précurseurs.
Eh ben écoute, on va conclure là-dessus. Alors quand même, je vais te demander, parce que là, tu es en période de pause, de repos. C'est combien chez toi une période de repos, là?
Alors là, tout de suite, on a prévu une semaine avec mon coach, possiblement plus. Mais mon souci, c'est que les compétitions reprennent vite en 2023. Donc, je vais pas non plus pouvoir me permettre de faire une grosse coupure, mais la planification en 2023 va permettre également une coupure à l'été prochain. Mais voilà, ça va surtout être la couper sportivement au niveau, on en revient au même, au niveau musculaire. Et après, au niveau nerveux, au niveau de l'envie, eh ben, on verra sur quelle déjà discipline j'aurais envie de reprendre. Ce sera, je pense, une grande dominante de vélo et de home trainer. Et après, remettre des petites touches de course à pied, en fait, pour recréer cette envie, parce que je pense que quand je coupe, moi, mon problème, c'est ça, c'est que je perds l'envie, après, il faut la retrouver. Et puis, même à la fois, voilà, attendre. Pareil, ne pas forcer les choses, revenir aux fondamentaux, reprendre pendant deux semaines avant les fêtes, des petites touches pour avoir un petit peu des petits morceaux de biscuits, quoi, créer un petit peu cette envie pour ronger son frein. Pendant les fêtes, je m'entraîne, mais voilà, moi je demande à mon coach qu'il ne me donne pas de plan d'entraînement, pas de contraintes. C'est là c'est pareil, c'est les fêtes, c'est la famille avant tout. Et s'il n'y a pas le temps, parce que le petit a envie qu'on joue avec les jouets de Noël et tout, et ben il n'y a pas le temps, c'est pas grave, la séance elle se fera plus tard. Et par contre, après, on remet un coup de collier, et puis en début d'année, là par contre, on prend le cadre strict et on met la discipline, et puis on met le petit doigt sur la couture et en avant.
Et j'ai à te dire quand même, ta lettre au Père Noël de coureur, tu demandes quoi au Père Noël cette année?
C'est compliqué. Tout de suite, là, tu vois, je pourrais avoir envie de te dire de belles courses et de bons résultats. Mais non, tu vois, après l'épisode qu'on a fait, avant tout, je dirais une bonne santé, pas de blessure. Et s'il y a une bonne santé, pas de blessure, ça veut dire qu'il y aura des compétitions. S'il y a des compétitions, ça veut dire qu'il y aura de beaux moments de partage avec la famille, avec le team. Et puis, après les résultats, ce sera la cerise sur le gâteau. Ce sera des événements intrinsèques et extrinsèques qui joueront dessus. Et puis si j'ai fait le taf à l'entraînement, ben, y a pas de raison que ça marche pas.
Bah écoute,
mais voilà, tout ça, ce sera juste la cerise.
c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. J'ai une dernière question. Il y a une course qui te fait rêver, que t'as pas encore faite et qui te fait rêver.
Qui me fait rêver, je sais pas, tu vois, parce que moi, très chauvin, bah ouais, il y a eu cette IGTV là en Auvergne. C'est vraiment là, j'ai vraiment marqué cette trace avec le cœur. Après, comme j'ai dit, tu vois, je n'y pensais pas avant, mais c'est vrai que c'est une course qui m'a marqué au fer rouge, c'est la Diagonale. J'espère y retourner cette année. Et on a un beau projet en famille, c'est que ma femme et ma sœur fassent leur premier ultra en 2025 là-bas, de pouvoir y aller en famille. Plus que la course qui me fait rêver, c'est l'événement par lui-même. Et après, en course vraiment, non, pas spécialement, tu vois. Il n'y a pas de... C'est toujours en fait les événements, plus que la course, le paysage, parce qu'on peut, comme je t'ai dit, on peut toujours trouver les moyens d'y aller sur des zones, des sommets, on peut toujours y aller. Mais après, la course avec le dossard en elle-même, il y en a pas vraiment, tu vois. C'est tout un mélange d'événements, de plaisir et de partage qui me font rêver, quoi.
Eh ben écoute, c'est une magnifique conclusion. Je mettrai tous les liens pour te suivre. Alors, t'as un compte Instagram, Bero_Alex, hein, si oui, c'est ça.
C'est ça.
T'as ton Strava et t'as d'autres présences ou j'ai raté quelque chose ou?
Non, bah j'ai mon compte Facebook aussi, et puis voilà quoi.
Voilà.
Comme un truc maintenant on va dire de trentenaire quoi. Tu vois, on n'est pas trop sur les nouveaux réseaux, mais on tient sur les anciens.
J'ai cru que tu allais dire un truc de vieux, mais à 32 ans, je dis non, t'as pas le droit de dire ça.
Non,
En tout cas, écoute, Alex, je te remercie beaucoup pour ce témoignage parce que je pense que c'est vraiment important. C'est un sujet que j'avais abordé dans Sport Nutrition, que j'ai abordé dans Kilomètre 42. Je vais en reparler et je le dis très prochainement dans Sport Nutrition parce que avec une jeune femme qui a vécu ça aussi, on va en reparler parce que c'est un sujet qui est vraiment, vraiment extrêmement important. Et c'est vrai qu'on avait peu de témoignages. J'avais un témoignage sur la boulimie avec Yvan Rassa qui a montré une facette aussi de ses symptômes et puis la blessure aussi, qui a montré bah, qu'il avait réussi à renaître aussi avec un beau parcours puisqu'il était même devenu champion du monde en UFOLEP ou je sais pas quoi. En fait, tu vois, j'ai toujours une dernière question, mais c'est con, mais je me dis, t'es gendarme, ils n'ont pas des équipes, les gendarmes, en trail ou des choses comme ça sur lesquelles tu pourrais les représenter?
Non, 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 il n'y a pas. Alors, c'est assez compliqué à définir. On a beaucoup d'athlètes de haut niveau dans les armées en général, mais c'est plus en fait des athlètes qui sont recrutés
Eh oui.
par les armées et qui en fait grosso modo leur offrent un contrat, donc un confort de vie où tu as une rémunération assurée, mais et qui leur permettent d'avoir des créneaux dégagés pour l'entraînement. Mais c'est pas quelque chose qui se fait pour le trail. Le trail n'étant pas inscrit en fait sur les listes fédérales pour avoir des sportifs de haut niveau.
D'accord.
Donc moi de toute façon je n'aurais pas été concerné, mais non, le trail n'est pas encore dans ce schéma-là.
Bon, bah écoute, c'était ma petite curiosité comme ça pour savoir un petit peu. Et puis il me semble d'ailleurs, mais peut-être que tu vas me dire, j'ai vu je crois qu'il est gendarme aussi, Valentin Witz qui a fait un super temps au marathon de Valence ce week-end. Je crois qu'il est gendarme aussi, non?
Je ne sais pas. Après, ben là, comme c'est une discipline athlétique et fédérale, ça se peut qu'il soit sous contrat en fait, en tant que sportif de haut niveau.
Et ben, a priori même pas en fait. Je crois qu'il est même pas pro. Tu vois, je crois qu'il a un statut où il travaille classiquement. À vérifier en
Ça
tout
se
cas.
peut aussi. Hein.
Ouais, à vérifier en tout cas. Mais bon, c'était pour dire aussi que ben voilà, il y a des dans la gendarmerie, vous avez des belles, vous êtes nombreux à être sportifs et comme tu l'avais dit, hein, ça fait partie aussi des critères hein, pour le devenir. Donc c'est important. Je te remercie beaucoup en tout cas pour ce témoignage qui est précieux pour moi. Je te remercie. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer, d'être rentré aussi dans le détail pour parler des symptômes aussi, de comment s'en rendre compte et des
Oui,
conséquences.
moi c'est ce que je te disais, c'est voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Bah, ma foi, s'il faut être précurseur pour lever certains tabous et pour mettre certains mots sur enfin, un mot MOTS sur certains mots MAUX, et ben ma foi, il faut le faire et pourvu que ça puisse aider d'autres personnes.
Eh bien, écoute, c'est un très bon mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Alex. Et puis, nous, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec... Ah bah si, je sais qui sont les invités, mais je ne vous dis pas. Parce que, alors là, c'est en plus une belle aventure. Un super truc aussi. Là, je vous garantis aussi, mais on n'est pas du tout dans le même domaine. Je ne sais pas, tu nages, toi? Tu nages pas?
Je nageote, voilà, de temps en temps. C'est vrai que quand je peux pour la récup, bah ça peut être intéressant, mais c'est pas, voilà, c'est pas trop quelque
t'as
chose.
T'as pas mis l'Ironman de Vichy à ton programme ou quoi que ce soit?
Faut jamais dire jamais.
Ouais.
Mais c'est pas prévu.
C'est pas prévu. Mais le futur invité, je peux te dire un truc, c'est que lui, il a nagé 30 km en quelques jours. Voilà, on parlera de ça parce que c'est une sacrée aventure, je peux le garantir. J'en dis pas plus, je dis pas le nom. Vous découvrirez ça la semaine prochaine et je te remercie encore une fois pour ton témoignage, Alex. Merci beaucoup.
Merci à toi, Bertrand.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.